de faire.
Ce sera l'un des principaux chantiers du déconfinement. Comment faire revenir 12 millions d'élèves à l'école à partir du 11 mai prochain? Le ministre de l'Éducation planche depuis des semaines sur cette question. Et tout à l'heure, interrogé par les députés de la mission d'information de l'Assemblée, Jean-Michel Blanquer a donné les premières pistes. Cette reprise devrait se faire par petits groupes.
Nous définirons quel est le plafond de ces petits groupes. Il sera peut-être différent pour l'école primaire et pour l'enseignement secondaire. Mais ce plafond pourrait être par exemple de 15 élèves. Il n'y aurait donc pas une seule classe qui aurait plus de 15 élèves pendant cette période. Ce qui très souvent reviendra à faire un demi-groupe avec une classe existante. Cela signifierait que nous ferions rentrer à partir de la semaine du 11 mai. Et en réalité, ce ne serait pas le 11 mai lui-même, parce qu'il y aurait une pré-rentrée des professeurs de l'école primaire. Mais au cours des jours suivants, nous ferions rentrer les classes de grande section, de CP et de CM2. Ensuite, on aurait l'enseignement secondaire en semaine 2, c'est-à-dire la semaine qui commence le 18 mai, avec le collège pour lequel ce serait la classe de 6e et la classe de 3e, puis ainsi que le lycée, la classe de 1ère et la classe de terminale, et enfin le lycée professionnel pour lequel on commencerait par les ateliers industriels. Et enfin, en semaine 3, le 25 mai, eh bien, l'ensemble des classes pourraient rentrer, mais le système serait organisé pour que ce soit toujours des groupes de pas plus de 15 élèves.
Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, il y a quelques instants face aux députés, qui a donc évoqué cette piste d'un retour progressif à l'école, retour progressif sur 3 semaines. On le sait, pour un déconfinement sans risque de seconde vague, il faudrait que l'immunité collective soit assurée. Et de ce côté-là, on en est encore loin. Selon l'Institut Pasteur, à ce jour, seuls 5,7% des Français auraient contracté le Covid. Il en faudrait 70% pour obtenir cette immunité collective. Le traçage des données mobiles fera bien l'objet d'un vote au Parlement. C'était une demande de l'opposition. Par le gouvernement n'avait prévu qu'un débat sans vote fin avril. Les députés finalement pourront se prononcer, tout comme sur le déconfinement progressif du pays. Les juges de la cour d'appel de Versailles se penchent depuis ce matin sur le dossier Amazon. En première instance, le tribunal de Nanterre avait estimé que le groupe n'avait pas suffisamment protégé ses salariés. Amazon, en réaction, a fait appel et décidé de fermer temporairement ses entrepôts. Sur le plan sanitaire, l'Espagne enregistre un très léger rebond du nombre de morts quotidiens. En revanche, au Royaume-Uni, les autorités ont annoncé le bilan le plus faible depuis 15 jours. L'Italie aussi multiplie les signes encourageants. Le nombre de malades pris en charge dans les hôpitaux est en baisse dans le pays. Le déconfinement doit débuter le 3 mai prochain. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte présentera son plan de redémarrage avant la fin de la semaine. Il est 13h03 sur Europe 1. Depuis le début de cette épidémie, vous vous posez beaucoup de questions sur le coronavirus. Nos experts sont là pour y répondre. Tout de suite, c'est notre spécialiste santé, Mélanie Gomez, qui vous répond. Bonjour Mélanie.
Bonjour Marguerite, bonjour à tous.
Mona nous a contacté d'Aix-en-Provence. Est-il vrai qu'il y a des groupes sanguins qui sont moins à risque que d'autres d'avoir le coronavirus? Et si oui, lesquels, nous demande Mona.
Alors d'abord, je vais quand même repréciser un peu les choses. Aucun groupe sanguin n'a été totalement épargné par le coronavirus. Il y a eu des cas de patients infectés dans tous les groupes, que vous soyez O positif, B- A, il y a eu des cas. En revanche, c'est vrai qu'il y a une étude qui a montré que peut-être dans les personnes du groupe O, on aurait un risque un peu moins élevé d'être infecté par le coronavirus. Je dis peut-être parce qu'il faut être très prudent. Ce sont des données préliminaires issues d'une étude chinoise qui a été mise en ligne en mars, qu'il faut encore confirmer. Et quand bien même, à ce stade, on peut pas en conclure quoi que ce soit. On ne peut pas dire aux gens, par exemple, du groupe A, allez-y, pour vous, c'est tranquille, on n'a pas besoin de vous protéger. Ce serait totalement irresponsable. Il y a, au moment où on se parle, c'est certain, des malades du groupe sanguin O qui sont même peut-être intubés en réanimation à cause du Covid. Donc vraiment, la seule chose à retenir aujourd'hui, c'est que quel que soit son groupe sanguin, on est tous à risque, on reste chez soi, on reste confiné. Et même si vous êtes du groupe O, lavez-vous autant les mains que les autres.
Merci Mélanie Gomez. Mélanie qui le retrouvera dans une heure. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les, vos questions à Mélanie, soit par téléphone au 3921 ou bien sur les réseaux sociaux avec le hashtag Radio Ouverte. Il est 13h05 sur Europe 1 et c'est à vous Raphaël Duchemin pour La France Bouge.
Merci Marguerite, à tout à l'heure.
La France Bouge avec la Caisse d'Épargne, mobilisée pour être utile aux entrepreneurs et à l'économie. Caisse d'Épargne, vous être utile.
Europe 1, midi 14h,
La France Bouge. Raphaël Duchemin.
Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant dans La France Bouge. Ici, vous le savez, ce sont vos actions, votre mobilisation, votre inventivité que nous aimons mettre à l'honneur. écart dans la résolution de nos problèmes quotidiens. Vous êtes, vous le prouvez d'ailleurs chaque jour, un véritable moteur. Et dans ce monde qui change, on a besoin de ces idées, de ces initiatives qui naissent un peu partout sur le territoire. Aujourd'hui, c'est aux animaux que nous allons nous intéresser avec Elisabeth Assayag, bien sûr. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes et à tous. Vous avez des petits animaux, vous ?
Alors, on a deux poissons, Nono et Neuers, qui sont les fils de mon fils, hein, me dit-il.
Ah, bah, très bien. Bah, c'est
et vous,
bien, c'est important.
Je crois qu'il y a Joss, c'est ça ?
Nous, on a Joss. Joss, c'est le diminutif de Josette. Elle s'appelle Joss et c'est un petit hamster russe. Qui est dans sa grande cage, une cage immense de la taille d'un placard, j'ai dû céder. Et voilà, elle fait le Joss fait le bonheur des enfants. Pas le mien, mais en tout cas, les enfants sont heureux.
Et oui. C'est vrai que c'est important, les animaux de compagnie pour les enfants, pour les adultes aussi. On va le voir, vous êtes nombreux à vous mobiliser. N'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer les photos de vos animaux de compagnie. Il y a 13 millions de chats, entre 7 et 8 millions de chiens, 6 millions, je crois, d'oiseaux un peu plus dans nos foyers. Mais avec le confinement, on a vu, c'est vrai, se multiplier. Les abandons et les refuges arrivent à saturation. Alors depuis jeudi, le programme d'adoption solidaire est lancé, ça y est. Bonjour Jacques-Charles Fambonne.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président de la SPA. Vous arriviez, c'est vrai, à une situation de saturation dans les refuges parce qu'avec le confinement, se déplacer pour venir adopter un chien, ça n'était plus possible. Donc vous avez alerté le gouvernement. Manifestement, ça y est, ça refonctionne.
Oui, nous avons une réponse extrêmement positive du gouvernement. On avait quand même un espoir assez réduit. Le ministère de l'Intérieur a vraiment, je pense, d'autres difficultés en ce moment. Mais c'est un bon message que dans un pays où il y a des morts tous les jours, on fasse une dérogation pour la cause animale et pour donc permettre aux gens de venir adopter dans nos refuges et puis dans ceux des autres associations qui acceptent les conditions un petit peu drastiques de ce nouveau type d'adoption.
Oui, combien d'adoptions ont été possibles depuis que justement c'est de nouveau autorisé ?
Alors, on est assez content parce qu'on a 55 refuges. Je parle évidemment que pour l'SPA, hein. J'ai pas les chiffres des autres associations. On a 55 refuges, on a décidé de faire les choses prudemment et de faire 2 adoptions par jour et par refuge. Ça fait donc une centaine, ce qui nous permet de grosso modo d'espérer 3000 adoptions par mois, ce qui correspond à notre flux habituel d'animaux qui sortent des fourrières que nous recueillons et que nous donnons à l'adoption.
Alors, oui, parce que vous aviez réellement vu le nombre d'animaux croître ces dernières semaines dans vos refuges.
Oui, absolument. C'est pour ça que j'ai attiré l'attention du gouvernement. Alors, ce n'est pas vraiment le nombre des abandons. Pardon. Les gens ont été raisonnables. Ils n'ont pas cédé à la panique d'une prétendue transmission du virus par les animaux. Mais c'est surtout le fait que les animaux errants, les animaux abandonnés sont capturés par les fourrières. Alors, les fourrières avaient eu la gentillesse de les garder un peu plus longtemps que le délai réglementaire de 8 jours si les propriétaires ne les ont pas réclamés. Mais on arrivait quand même à saturation. Donc, il fallait absolument que le gouvernement nous autorise à ces adoptions. J'ai proposé des conditions extrêmement sécuritaires en termes de non-transmission du virus. Elles ont été acceptées.
Donc, on passe par un questionnaire en ligne, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a remplacé les formalités administratives que l'on fait d'habitude au desk du refuge par des formalités préalables sur Internet. On va sur Internet, on décrit l'animal que l'on veut, on décrit les conditions dans lesquelles on habite, le questionnaire est assez poussé. Puis ensuite, vous avez un rendez-vous. Vous venez à ce rendez-vous seul, à la différence de ce qu'on fait d'habitude, où la famille vient au complet. Vous arrivez sur le refuge avec un rendez-vous horodaté, c'est-à-dire que vous êtes seul sur le refuge, personne n'est susceptible de vous contaminer. Les salariés qui vous présentent l'animal restent à distance, l'animal vous est présenté à l'extérieur, dans un parc fermé. On voit comment ça se passe, si vous partez avec l'animal, il a été toiletté, il a été confiné pour éviter que quelqu'un de contaminé les touche et vous contamine à votre tour. C'est très sécurisé, c'est une vraie adoption, c'est-à-dire qu'en fait la présentation à l'animal, qui est la chose la plus importante dans ce rapport animal-homme et dans cette rencontre, est fait en présentiel. Et puis ensuite, on régularise les formalités administratives que l'on n'a pas pu faire parce qu'elles auraient réclamé un contact, un tête-à-tête derrière un bureau et derrière un ordinateur.
Ouais, voilà. C'est vrai que c'est important de continuer. Et pourtant, Elisabeth, il y a des refuges qui refusent actuellement les adoptions d'animaux en période de confinement, je crois.
Oui, tout à fait, hein, parce que certains refuges craignent des abandons encore plus nombreux à la fin du confinement. Parce que, par exemple, vous avez ma fondation 30 millions d'amis qui a dit qu'il n'y a aucune adoption n'aura lieu avant la fin du confinement. Pourquoi ? Bien parce que pour cette fondation, et comme pour d'autres, une adoption, c'est un acte posé et réfléchi. Et ils expliquaient qu'aujourd'hui, il y a des gens qui les appellent pour prendre un chien et ils leur disent, toujours d'après la fondation 30 millions d'amis, on le ramènera après le confinement. En gros, on prend l'animal pour tenir compagnie, un peu comme un alibi pour braver les interdictions de sortie. En tout cas, c'est comme cela que le perçoivent certaines associations. Vous avez aussi le cas de l'association Agir pour la vie animale qui héberge plus de 500 animaux en Seine-Maritime. Et ils le disent, les gens ont besoin d'une présence animale en ce moment. Et lors du déconfinement, eh bien, les animaux risquent de se retrouver abandonnés. Donc c'est aussi pour cela que certaines associations ne sont pas en accord avec cette décision.
Jacques-Charles Fonbonne, effectivement, il faut s'assurer que la personne qui va venir récupérer, adopter un animal ne va pas s'en débarrasser ou s'en servir d'alibi pour aller faire les sorties autorisées.
Absolument. Alors, je n'ai pas répondu à votre première question. On avait réalisé hier à 16h 229 adoptions. Donc, le système se met en marche de façon positive. Les gens ont bien suivi la procédure. Ça marche bien. Pour un avis sur le fait, le refus de certaines associations, ça mérite un peu, pour dire les choses très clairement. Nous étions réunis en Skype il y a une quinzaine de jours maintenant. Tout le monde était d'accord pour dire que la situation était extrêmement tendue et qu'il fallait absolument qu'on réouvre les adoptions. La SPA a proposé au gouvernement ce dispositif qui a été accepté. À un moment donné, il y a un choix à faire. C'est-à-dire que si nous n'avions pas obtenu cette dérogation, ça voulait dire que nous refusions, parce que nous n'avions plus la place, parce que nous étions à saturation, nous aurions été obligés de refuser les animaux qui sortaient des fourrières. Ce qui veut dire qu'ils ne seraient pas sortis des fourrières et qu'à terme, ils auraient été irrémédiablement euthanasiés. Nous, c'est contraire à nos statuts. Donc on l'a fait, je prends le risque, c'est-à-dire contre le risque de voir quelques animaux revenir, malgré la procédure, malgré le questionnement, malgré l'appel téléphonique.
Vous vous dites que malgré tout, on va en sauver un certain nombre et que c'est des...
Oui.
C'est déjà ça de fait.
Absolument. Eh ben, il vaut mieux avoir confiance dans les gens qui sont amis des animaux et qui vont effectivement adopter. S'il y en a d'autres qui ne sont pas détectés par le questionnaire et par mes agents et qui viennent quand même adopter pour passer le confinement, je pense qu'on va les détecter. S'il y en a quelques-uns qui passent entre les mailles du filet, tant pis.
Alors vous restez avec nous parce qu'il y a une autre initiative qui a attiré notre attention, toujours en direction des animaux qui sont dans les chenils ou dans les refuges, c'est celle de Royal Canin. Bonjour Fabrice Ribourg.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes le président de Royal Canin France. Vous avez, vous, dès le départ, décidé de vous investir auprès des refuges en faisant don de denrées alimentaires. Votre action ne s'arrête pas là. Vous avez aussi fait don en direction de structures d'accueil pour les félins. Même chose pour des foyers de sans domicile fixe qui vivent avec des chiens. C'est le cas, je crois, du coup, du côté de Montpellier.
Mmh. Alors Montpellier, c'est là d'où on vient, entre le Gard et l'Hérault. On a décidé de structurer notre approche en deux phases. Donc, disons que dans un premier volet, on soutient le personnel médical, évidemment, qui est au front, comme n'importe quelle grande entreprise aujourd'hui doit le faire en France. Et puis, à côté de ça, on a un support à notre écosystème animal. Et dans ce cadre-là, on a offert à 400 refuges, plus une centaine de refuges chats, environ 100 tonnes de nourriture. Alors, ça, pour vous donner une idée, ça vous permet de nourrir 20 000 animaux environ pendant un mois. Ça fait 600 000 rations journalières pour les chats et les chiens.
Mais et parce que vous continuez, vous, à avoir une activité justement pour pouvoir continuer à alimenter les animaux ?
Oui, alors nos deux usines françaises qui sont basées donc dans les Hauts-de-France à Cambrai et notre usine historique dans le sud, à Aimargues, tournent à Pierre-Régine. D'ailleurs, j'en profite pour remercier... Tous les employés qui se donnent du mal tous les jours. Alors on a mis un certain nombre de mesures en place pour éviter la contamination. Et puis donc avec des caméras infrarouges à l'entrée, etc. Et puis surtout les gestes barrières, parce que ça ne remplace rien. Et ça nous a permis de jusqu'à maintenant de fournir la demande qui est plutôt en augmentation. Et puis vous en parliez sur Montpellier, on a aidé le foyer social qui avait une vingtaine de chiens, parce qu'en fait, une population de SDF avec des chiens, et donc qui était jusqu'à maintenant supportée par la SPA. Avec le confinement, comme le disait Monsieur Fonbonne, les SPA étaient en activité restreinte, et donc du coup on a pris le relais sur la résidence Acala, pour la nommer, à Montpellier.
Et vous allez continuer comme ça le temps qu'il faudra d'aider les refuges pour nourrir les animaux ?
Oui, alors je pense que dans un premier temps, ça permet de répondre à une demande, parce que, comme l'a dit M. Fonbonne, jusqu'à maintenant, les SPA et les refuges, de manière générale, étaient fermés. Et je suis d'accord de dire que c'est un beau geste de les rouvrir. Et ça va aider à désengorger. Et puis après, on va réétudier au cas par cas et au jour le jour les besoins, mais on répondra présent en cas de besoin.
Merci à tous les deux, en tout cas, d'avoir été en direct avec nous, et bravo pour ce que vous faites pour nos amis les animaux. Il est 13h16 sur Europe 1.
Europe 1.
Vous avez un animal de compagnie, mais vous n'êtes pas en capacité de vous en occuper en ce moment. Pas de panique, nous avons la solution. À tout de suite.
La Caisse d'épargne vous présente La France bouge. Caisse d'épargne, vous êtes utile.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Il y a en France de nombreux foyers qui possèdent des animaux de compagnie, mais c'est vrai que quand on est âgé, qu'on ne peut pas sortir le chien, qu'on est malade ou hospitalisé, la question est qui peut s'en occuper à notre place. C'est un vrai problème en cette période de confinement. Alors, des initiatives ont vu le jour. Bonjour Thibaut Pfeiffer.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur d'Empreinte Mon Toutou. Votre plateforme est devenue gratuite depuis le début du confinement pour les personnes fragiles et pour les soignants qui ont un animal. Vous faites de la garde bénévole, hein, c'est votre cœur de métier. Et vous promenez le chien des gens qui ne peuvent pas le faire parce que malade ou parce qu'au travail ?
Voilà, c'est exactement ça. En temps normal, Empreinte Mon Toutou, en fait, c'est une plateforme où les propriétaires de chiens trouvent des bénévoles pour sortir, promener leurs chiens, pour les garder pendant leurs vacances, etc. Et habituellement, il y a un abonnement. Donc là, nous avons en fait rendu le service complètement gratuit pour aider toutes les personnes qui sont en difficulté. Sachant que de l'autre côté, on a plein de bénévoles qui sont en ce moment sont chez eux, sont jeunes et en pleine santé et sont hyper motivés pour aller aider les autres.
Alors vous avez évidemment, pour les personnes qui effectuent le service, mis en place, je suppose, hein, des règles strictes pour préserver la santé de tout le monde.
Oui, tout à fait. Donc la première chose qu'on a fait déjà, c'est de conseiller aux membres qui n'ont pas un vrai besoin en ce moment de ne pas utiliser la plateforme, parce que ce n'est pas très responsable. Mais par contre, pour tous les autres, il y a un bouton donc Covid-19 sur le site qui leur permet de se signaler. Donc soit j'ai besoin d'aide pour mon chien en ce moment, soit je suis disponible pour aider, donc ce qui permet de se reconnaître très facilement. Et ensuite, on donne beaucoup de règles. Donc tout doit se faire dans le voisinage proche, ça doit être des sorties brèves, comme recommandé par le gouvernement. Donc en fait, il faut respecter les règles du gouvernement, respecter les distances de sécurité quand on vient chercher le chien. Ils doivent être tenus en laisse, il ne faut pas que d'autres personnes les caressent lorsque on les promène, il faut bien nettoyer tout le matériel du chien quand on rentre, etc., etc., pour que tout se passe pour le mieux.
Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Combien vous avez d'inscrits en ce moment ? Et puis, est-ce que c'est toujours la même personne qui vient chercher mon animal, tiens ?
Alors oui, le but, c'est que ce soit la même personne. Comme ça, le chien connaît la personne et tout se passe bien. Ils deviennent amis, en gros. Et depuis le début de la crise, là, on a à peu près 10 000 personnes qui se sont inscrites, soit parce qu'ils avaient besoin d'aide pour leur chien, soit pour aider.
Alors, c'est vrai qu'il y a énormément d'initiatives comme celle-là. Vous en avez trouvé d'autres, Elisabeth, je crois ?
Oui, tout à fait. Hein. Pour s'occuper d'un chien qui est en plein confinement, hein, c'est pas évident pour eux. Il y a un mouvement qui s'appelle le Mouvement Blanc. Il a été initié par une éducatrice spécialisée dans les chiens, Catherine Collignon. Et l'objectif de ce mouvement, qu'on trouve d'ailleurs qui a une page Facebook, c'est d'apporter l'aide, le soutien à toutes les personnes qui sont en ce moment en difficulté avec leur animal. Hein, comment le gérer, parce qu'on peut pas le sortir toujours quand on en a envie ou quand il en a envie. Quand il l'exprime, et puis surtout l'animal n'a pas l'habitude de voir autant son maître pour certains. Donc il y a 5 éducateurs qui viennent de toute la France, qui centralisent les demandes des personnes qui en ont besoin, et ces éducateurs donc les aident par le biais d'une centaine de professionnels aussi volontaires.
Alors nous sommes aussi en ligne avec Nelly Demestre qui est avec nous sur Europe 1. Bonjour Nelly.
Bonjour.
Vous avez, vous, lancé un compte Facebook Confiné mais solidaire qui recense justement les professionnels du milieu câlin et félin en proposant un pet-sitting aux soignants pendant la pandémie. Comment vous est venue l'idée ?
Alors très simplement, en prenant information de l'existence du site En Première Ligne qui proposait du bénévolat pour la garde des enfants et faire les courses au personnel soignant. Oui. Et je me suis dit, comme je suis éducatrice canin et félin, je me suis dit, bah super, mais pour les animaux domestiques, notamment les chiens et les chats, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'ils ont aussi des besoins. Et quand on est un personnel soignant, en tout cas c'était ça la première idée, quand on a un personnel soignant, et qu'on est absolument débordé par l'emploi du temps, ben, savoir que son chien ou son chat est seul à la maison depuis plusieurs heures, voire plusieurs jours, c'est juste pas possible. Donc voilà, c'est parti comme ça. Se dire que nos animaux domestiques, ils ont aussi besoin qu'on mette en place des filets de sécurité.
Oui, des filets de sécurité, ça signifie que ça fonctionne comment ? On rentre en contact avec vous sur le site et on fournit quelques renseignements, on est géolocalisé ?
En fait, on a créé une carte interactive qui recense l'ensemble des professionnels du chien ou du chat qui se sont lancés dans l'initiative. Et chaque personnel soignant qui a besoin qu'on vienne l'aider pour prendre en charge son chien ou son chat prend directement contact avec le professionnel du chien ou du chat qui est le plus proche de chez lui. Et ensuite, nous, au sein du collectif, on a mis en place un protocole de prise en charge qui respecte du mieux possible tous les gestes sanitaires pour préserver l'intérieur de la personne et évidemment qui rappelle les règles de base pour prendre en charge un chien ou un chat.
Combien d'animaux et combien de foyers aidés aujourd'hui ? Vous avez fait les comptes ?
Alors, oui, on a fait les comptes. Finalement, pas tant que ça. On a une centaine de prises en charge depuis le début de la création, c'est-à-dire très très vite, hein, une semaine après à peine l'annonce du confinement. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que, a priori, les personnels soignants s'organisent autrement via la famille ou les voisins. Et puis aussi, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de réseaux de solidarité entre citoyens qui se sont mis en place.
Oui, c'est vrai. Et on va le voir aussi avec Franck Pignon, qui est également avec nous en ligne et qui est à l'origine de Bibou, qu'on avait déjà reçu dans la France Bouge. Bonjour Franck.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes venu nous parler déjà de votre réseau social pour l'hébergement gratuit des animaux. Vous jouez vous aussi les nounous hein, pour les animaux des autres. Qu'est-ce que vous avez mis en place pendant cette période de confinement ?
Alors, il faut savoir effectivement qu'au départ, notre réseau était déjà dans la solidarité, notamment vis-à-vis des personnes à risque, enfin, on ne pouvait pas dire à risque à la base, mais en tout cas fragiles, personnes âgées et ainsi de suite, ou personnes handicapées pour les aider dans la garde des animaux de compagnie. Et du coup, avec le Covid-19 et les règles de confinement, nous avons amélioré notre service avec plus de visibilité, d'une part, via des plateformes comme Solidaire Handicap, référencées comme une solution d'aide solidaire par le secrétariat d'État chargé des personnes handicapées, par exemple. Mmh. Nous avons aussi ouvert un peu plus notre ligne téléphonique pour les personnes qui n'ont pas Internet et qui ont besoin quand même de faire garder leurs animaux ou en tout cas les faire promener. Le plus souvent, ce sont les personnes qui ont besoin de faire promener leurs chiens et qui ne veulent pas sortir. Donc, on a ouvert la ligne téléphonique pour que les gens puissent nous appeler. Et ainsi de suite, nous avons amélioré le système oui, en mettant plus sur
le système. Oui, oui.
Voilà, tout à fait.
Est-ce que vous accueillez d'autres animaux, pas seulement des chiens et des chats, aujourd'hui ?
Ah bah, depuis le début déjà, depuis le mois de juin l'année dernière, où l'ouverture de la plateforme, on était multi-animaux, on veut dire, aussi bien les NAC que... les chèvres, les poules, tous les animaux de compagnie. Alors effectivement, en cette période, on est plus centralisé sur les chats et les chiens, mais quelqu'un qui a un oiseau aussi peut faire garder son animal, bien évidemment.
Elisabeth, je voudrais qu'on parle aussi du resto des animaux, hein, qui est du côté de Toulouse, je crois.
Oui, alors ça, c'est une initiative assez aussi, une de plus assez formidable. Ça, donc, c'est à Toulouse. Le resto des animaux, c'est une association qui, normalement, enfin, hors confinement, vient en aide aux chiens des sans-abri. Mais là, depuis le début de la crise sanitaire, cette association propose de soulager les soignants. Les soignants qui ont des animaux seuls à la maison, ils reviennent d'une journée qui dure plus de 24 heures et ils n'ont pas forcément l'envie d'aller les promener, ils sont peut-être un peu fatigués ou parfois ils culpabilisent tout simplement de les laisser seuls à la maison. Et bien cette association, le Resto des Animaux, les promène, s'en occupe de façon à ce que les animaux ne restent pas seuls, que les soignants soient tranquillisés de savoir qu'une personne puisse prendre soin de leur animal pendant leur longue absence.
Merci en tout cas pour ce que vous faites et merci d'avoir été avec nous dans La France Bouge qui continue. Il est 13h28.
Europe 1.
Que deviennent les animaux dans les parcs, mais aussi dans les centres équestres? Eh bien, vous allez voir que les spécialistes là aussi se mobilisent pour ne pas les laisser seuls. À tout de suite.
La France Bouge. Raphaël Duchemin.
13h30 sur Europe 1, nous sommes ensemble jusqu'à 14h et on s'intéresse à nos animaux. Aujourd'hui, elle se mobilise, la France, pour ses animaux et cela concerne aussi bien sûr les centres équestres à l'arrêt depuis le début du confinement. On en compte un peu plus de 9000 en France et beaucoup sont dans une situation compliquée en ce moment. Certains se retrouvent même au bord de la faillite avec l'entretien des bêtes qu'il faut continuer malgré tout à assurer, malgré l'absence de promenade, l'absence aussi de cavaliers. Bonjour Emmanuel Arrigui.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la gérante du centre équestre de Portici, auprès d'Ajaccio, en Corse du Sud. Votre centre est ouvert depuis 1965. Et alors, vous avez, comme beaucoup d'autres, lancé un appel pour qu'on vienne vous aider à maintenir votre activité. Quelle est la situation aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors, la situation du centre équestre de Portici, c'est une situation qui concerne aussi tous les centres équestres de France, je pense. En fait, le problème, c'est que depuis le confinement, on a exactement les mêmes charges qu'auparavant et on n'a plus aucune rentrée d'argent. On a les chevaux à nourrir, à soigner, les frais vétérinaires, etc. Et du coup, on a essayé de se mobiliser un peu comme on pouvait, quoi. On n'a pas toutes les aides annoncées actuellement, donc on a essayé de se mobiliser.
Oui, vous avez mis en place un système de parrainage, je crois, sur Facebook sur le site. C'est une manière, finalement, d'appeler au don.
Voilà, c'est une manière d'appeler au don. Mais donc, on a mis un système de parrainage et on a mis toutes les photos des chevaux, des poneys du club. Donc, les gens peuvent faire un don à la hauteur du montant qu'ils veulent. Et ensuite, on les accueillera au centre équestre après le confinement pour leur proposer des balades, offrir des balades, des cours, pour essayer de les faire revenir au club, quoi.
Oui, cet argent va servir à les nourrir, à s'en occuper. C'est vrai que c'est un budget, on ne réalise pas, mais il faut continuer finalement comme si de rien n'était.
Exactement. Là, en fait, on s'occupe des chevaux. Nous, on a une quarantaine de chevaux de club. Donc, qui sont complètement à l'arrêt. Donc, bon, ça leur fait des vacances. Les chevaux sont super, sont bien, quoi. On a aussi des chevaux de propriétaires dont on s'occupe tous les jours. Mais c'est vrai que tout est à l'arrêt. On n'a plus aucune rentrée, quoi. Donc, alors là, par contre, il y a une énorme solidarité qui s'est mise en place. Hein. On peut dire que ce soit les propriétaires, les cavaliers de notre club et d'autres clubs, tout le monde se mobilise, appelle pour savoir ce qu'ils peuvent faire pour nous. On nous a proposé même des champs pour mettre les chevaux de club qui sont à l'arrêt. On nous a proposé des champs pour qu'ils soient nourris, etc. Donc voilà.
Et vous avez réussi à collecter combien d'argent déjà sur justement ce système de parrainage que vous avez mis en place?
Là, pour l'instant, 5 500 euros.
Ouais, donc les choses commencent et ce sera un petit bas de laine pour effectivement continuer votre
oui.
activité. Je vais me tourner vers Elisabeth, parce qu'il y a aussi des sportifs professionnels, Elisabeth, qui viennent en aide aux animaux et aux chevaux en particulier.
Oui, la solidarité se poursuit et c'est vrai que les centres équestres sont touchés par cette crise du coronavirus. Par exemple, vous avez le cavalier de l'équipe de France, Philippe Rosière, qui a été avec Roger Yves Bost, qui ont
propose d'organiser des stages de solidarité au sein des centres équestres les plus touchés, et ça à la fin du confinement. Parce que oui, il y a des écuries hein, où ça va être compliqué de nourrir les chevaux, de payer un camion de foin, de s'en occuper. Et c'est pour ça que cette initiative était bonne à souligner pour pouvoir venir en aide aux centres équestres.
Vous restez en ligne avec nous, Emmanuel Arrigue. On va s'intéresser maintenant ensemble, si vous le voulez bien, à la situation des parcs, qui est un peu particulière aussi en ce moment. Direction le plus célèbre, hein, le zoo de Beauval, où Delphine Delors est en ligne avec nous. Bonjour Delphine.
Bonjour.
On est ravis de vous retrouver. Racontez-moi quelle est la situation aujourd'hui. C'est une période où, en principe, les allées sont remplies hein, au zoo de Beauval. Il y a énormément de monde. Comment est-ce que vous faites face à cette situation de confinement?
Ben aujourd'hui, comme partout, hein, là j'écoutais la situation dramatique de ce centre équestre. Donc nous, comme partout, tous les parcs zoologiques, on est à l'arrêt et nous vivons de la même façon de nos visiteurs. Donc plus de rentrée d'argent et énormément de frais, puisque tous les jours nous devons bien sûr nourrir nos animaux et que nous avons à Beauval environ 200 personnes qui continuent à travailler à temps plein, aussi bien soigneurs animaliers, vétérinaires, mais aussi des gens pour entretenir le zoo, des personnes à la technique, pour finir quelques constructions, des personnes qui sont en chômage partiel, en télétravail dans tous les postes administratifs. Voilà, la vie continue à Beauval. Nos soignants que je salue d'ici, nos Beauvaliennes, nos Beauvaliens qui sont là à pied d'œuvre tous les jours auprès de nos animaux, aussi bien donc je disais soigneurs qu'administratifs et qui permettent à Beauval de continuer, mais aussi à nos 500 Beauvaliens que nous avons dû mettre au chômage partiel.
Oui, parce que il faut bien le dire, hein, les frais sont incompressibles, hein, mais c'est quelque chose de colossal. Je crois qu'en mars, c'est entre 3 et 4 millions de chiffre d'affaires de perdus.
Voilà, c'est une grosse perte en chiffre d'affaires, mais c'est aussi... des grosses pertes en frais fixes, parce qu'il est une chose de ne pas gagner d'argent, il en est une autre de continuer à devoir en dépenser. En fait, tous nos efforts qui sont tournés vers pas de licenciement derrière, et puis de pouvoir accueillir au mieux nos visiteurs à la réouverture, mais surtout tout notre cœur qui reste auprès de nos animaux, avec ce bien-être animal qui est vraiment toujours évidemment au centre de nos préoccupations, et nos animaux vont très bien.
Alors justement,
il n'y a pas aucun problème pour eux.
Justement, ces animaux, est-ce que depuis que les allées sont désertes ou en tout cas moins fréquentées, vous avez observé des changements de comportement sur les animaux ?
Alors en fait, non, pas tellement. Je crois qu'ils ils vivent sur leur territoire, ils ont leurs encloses, leurs espaces. On fait beaucoup d'enrichissement de leur milieu de façon à être plus proche d'un milieu naturel. On va disperser des graines pour les gorilles, pour qu'ils puissent être en alerte. Voilà, beaucoup de choses qui sont faites au jour le jour. Et une fois qu'ils sont là, ils sont tranquilles sur leur territoire. Donc je ne pense pas qu'ils aient tellement... Ils n'ont pas d'interaction avec notre public et leurs soigneurs et vétérinaires sont auprès d'eux. Donc je ne vois pas beaucoup de différence dans leur comportement. Peut-être notre grand mâle panda, Johan Feu, qui est un peu cabotin, qui aime bien manger son bambou devant nos visiteurs et qui là, le croque seul dans son coin.
La réouverture, vous espériez 30 avril, ça ne sera pas possible. Vous avez des dates
avril,
déjà?
Non, on n'a pas du tout de date. On réouvrira le plus tôt possible, avec bien sûr tous les gestes barrières qu'il faudra ou pas mettre en place. À vrai dire, j'ai un peu l'impression que c'est encore dans longtemps. On est encore dans ce temps de confinement et il peut se passer beaucoup de choses d'ici là, d'ici même fin avril, d'ici même le 11 mai, d'ici même le 30 mai. Donc on avance vraiment pas à pas. Et pour l'instant, nos animaux sont en sécurité. En revanche, je lance aussi un appel sur beauvalnature.org au financement de nos programmes de conservation, parce que à travers Beauval, nous levons chaque année plus d'1 million 200 000 euros pour la préservation de la biodiversité. des programmes de conservation sur le terrain. Et aujourd'hui, nos programmes attendent notre financement. Et là, nous, on ne va pas pouvoir. Si nos caisses sont vides,
il faut continuer.
Et donc, il faut continuer cette lutte pour la conservation de la faune sauvage. C'est primordial.
C'est important, vous avez raison de le signaler. Et si je vous posais la question du comportement des animaux tout à l'heure, ce n'était pas complètement anodin. Vous allez voir pourquoi. Mmh. Parce que, Elisabeth, je crois qu'on a remarqué un phénomène assez incroyable depuis le début de ce confinement. C'est que les animaux se promènent maintenant dans les villes.
Mais vous avez remarqué, vous aussi, un petit peu. Bon, nous, même si c'est à Paris, moi, on voit davantage les pigeons, les oiseaux, bon, aussi les rats. Hein. Donc, moi, j'en ai vu, en tout cas, à travers ma fenêtre. Et on s'aperçoit que la nature reprend petit à petit ses droits. Hein. Là où on ne les attendait plus du tout, hein. Je parle même des animaux sauvages, hein, qui prennent la place des personnes confinées dans les villes désertées. Par exemple, en Savoie, certains ont pu croiser, bon, pas en ville, hein, mais dans des endroits où on les voyait jamais, des renards, des loups plus proches, des renards moins craintifs, des chauves-souris plus visibles, des oiseaux que l'on entend davantage. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a moins de bruit, mais le chant est davantage, on peut le percevoir, le son, on peut le percevoir de manière beaucoup plus claire. Et jusqu'à présent, on peut le dire, hein, ce sont des animaux qui sont confinés à cause des hommes. Et là, c'est le contraire en ce moment. En Seine-Maritime, un loup a été récemment observé et c'est une première depuis plus d'un siècle. Mais on s'aperçoit de ce phénomène que ce phénomène n'a pas lieu uniquement en France, en Espagne par exemple, mais aussi dans bien d'autres pays du monde. Tiens, à Hong Kong, un zoo est fermé. Vous avez peut-être pu apercevoir cette histoire sur les réseaux sociaux. Et un couple de pandas a réussi à s'accoupler. Ça faisait une dizaine d'années que ce zoo de Hong Kong, l'Ocean Park, tentait de pousser ces deux animaux à s'accoupler. Et là, il n'y a plus personne. Le confinement aurait aidé.
Et oui, chacun prend son temps et choisit son moment. C'est vrai aussi pour les animaux. 13h40, merci à vous d'avoir été avec nous. La France bouge continue.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
13h42 sur Europe 1, la France bouge continue avec vous. Et c'est vrai qu'en ce moment, nous sommes tous plus ou moins cloîtrés chez nous, nos animaux de compagnie avec. Mais certains, comme nous, tombent malades finalement. Et les conduire chez le vétérinaire n'est pas toujours possible. Alors, vous allez voir que la profession est en train de s'organiser. Bonjour Jacques Guérin.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le président de l'Ordre des vétérinaires. Oui. Depuis 2016, c'est vrai que vous vous demandiez si la télémédecine ne pouvait pas s'appliquer aussi à votre profession. Avec le confinement, forcément, c'est un débat qui est revenu sur le devant de la scène.
Alors effectivement, le débat suite à notre confinement et au fait que le gouvernement nous demande de limiter les contacts entre personnes a fait ressurgir un dossier que nous étions en préparation depuis effectivement 2016, où les organisations professionnelles vétérinaires avec le ministère de l'Agriculture travaillaient pour rendre cette télémédecine possible.
Donc on en est où aujourd'hui? Vous avez obtenu des autorisations pour pouvoir fonctionner par télémédecine. Je crois qu'il y a des choses qui sont en cours.
Alors, les choses sont en cours, elles sont bien engagées. Je pense que d'ici quelques jours, j'espère que nous aurons cette autorisation. Le décret est au niveau du Conseil d'État et il permettra aux vétérinaires de pouvoir, dans certaines conditions, faire des actes par télémédecine.
Oui, il faut expliquer aux auditeurs qui nous écoutent qu'en fait, il faut passer par une procédure d'urgence pour faire changer la loi, pour que vous puissiez effectivement exercer en télémédecine.
Exactement. Enfin, ça modifie des textes du Code rural et de la pêche maritime. Donc, on peut pas faire les choses n'importe comment. Je dirais, il faut que ça soit encadré. C'est une pratique que nous avons souhaité dans un premier temps expérimentale pour en juger à peu près les effets positifs, mais aussi les effets délétères. Et donc, nous avons un laps de temps d'expérimentation qui nous permettra derrière d'avoir un dispositif définitif qui sera adapté à la médecine vétérinaire.
Oui, parce qu'on ne peut pas tout faire non plus en télémédecine quand on est vétérinaire. On peut faire du curatif. En gros, l'animal qui est en face de nous ne peut pas nous répondre s'il a mal à droite ou à gauche.
Bah écoutez, je dirais que si on veut prendre un exemple qui est un des actes de télémédecine, qui est la téléconsultation. La téléconsultation, c'est une pratique médicale qui n'est que complémentaire. Elle utilise les nouvelles technologies, hein, du son, de l'image, mais d'un autre côté, elle nous prive aussi d'un certain nombre de moyens que nous mobilisons quand nous sommes auprès de l'animal. Alors je prends par exemple l'auscultation, la palpation, la percussion. Donc vous voyez bien que c'est un équilibre entre des éléments complémentaires liés à la technologie et des éléments dont on pourrait se priver. Le bilan de tout ça, c'est que le vétérinaire ne doit pas être en situation de compromettre le pronostic médical de l'animal. Ça fait partie des contraintes. Et pour avoir un acte qui soit de qualité, qui soit utile à l'animal, je crois que la première des choses, c'est que le vétérinaire ait une relation habituelle de confiance dans le cadre d'un contrat, d'une relation de soins. Et il s'agit bien d'une relation entre un animal, son propriétaire et puis je dirais le vétérinaire de famille qui va connaître l'animal et savoir finalement dans quelles conditions un acte de cette nature est possible et surtout utile.
Oui, il y en a qui le font déjà, je crois, Elisabeth, du côté de Grenoble.
Et oui, avec LinkVet, LinkVet. C'est une plateforme de téléconsultation pour animaux. Hein. Vous pouvez faire des chats, des visioconsultations pour que la personne qui est en face, via l'écran, puisse qualifier l'état de santé de votre animal. Hein. On peut le filmer, prendre des photos, envoyer des informations en amont de la conversation avec son vétérinaire pour recevoir des conseils optimisés. C'est une start-up qui a levé 550 000 euros il y a un peu moins d'un mois auprès d'investisseurs régionaux pour poursuivre ces innovations. Au début, l'ordre des vétérinaires n'était pas forcément favorable, mais bon, là, apparemment, les choses sont petit à petit en train d'évoluer.
Et oui, c'est vrai que ce confinement a fait bouger pas mal de choses. Je parlais tout à l'heure justement de la question psychologique sur les animaux. Le confinement a des effets aussi, Jacques Guérin, sur nos compagnons?
Alors indéniablement, de toute façon, à partir du moment où on va contingenter la capacité de l'animal à sortir, à exprimer ses comportements naturels, on va avoir des conséquences. Sur l'animal, même si cela est compensé par une présence accrue du propriétaire tout au long de la journée, alors qu'un certain nombre d'animaux, lorsque le propriétaire travaille, se retrouvent en situation d'être plutôt isolés. Donc vous voyez, il y a des effets bénéfiques et des effets qui ne le sont moins, mais je dirais que il y a les contraintes que chacun assume. Oui, on peut dire qu'il y a une répercussion. Après, est-ce qu'elle amène à de la pathologie ou à un mal-être de l'animal? Ça, c'est beaucoup plus difficile à identifier.
Il faut être extrêmement vigilant parce que vous avez, depuis le début de ce confinement, constaté que l'activité avait diminué de moitié. Vous retrouvez aujourd'hui avec des animaux plus mal en point parce que les propriétaires ne sont pas venus au début.
Alors, vous savez, les établissements vétérinaires se sont surtout organisés dans un premier temps et c'est ce qui a réduit le flux de leur activité pour répondre aux exigences que sont les gestes barrières, que sont la distanciation. Pour autant, les établissements vétérinaires sont restés ouverts et les prises en charge des animaux qui le nécessitaient ont été faites. Alors, il y a toute une activité vétérinaire qui est plutôt, je dirais, de convenance, hein, des opérations de stérilisation, par exemple, qui ont été reportées. Mais pour autant, tout ce qui devait être utile à l'animal a été préservé. Donc, pour l'instant, je ne sais pas si on peut avoir les mêmes indications qu'en médecine humaine, où effectivement les hôpitaux notent qu'un certain nombre de pathologies ont été un petit peu sous-déclarées ou que les personnes se sont abstenues d'aller voir leur médecin par crainte du virus. Mais je ne suis pas sûr qu'au niveau animal, on puisse avoir la même analyse.
Alors, vous restez avec nous parce qu'il faut bien aussi aborder une autre question, c'est celle du décès, hein, des animaux. Philippe Thomas est en ligne avec nous sur Europe 1. Bonjour Philippe Thomas.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG d'Estima. On vous connaît bien. Vous étiez venu nous voir. Vous êtes un spécialiste des pompes funèbres animalières. Vous accompagnez les propriétaires, notamment dans la crémation. Comment est-ce que ça se passe en ce moment? Est-ce que c'est plus compliqué, forcément, avec le confinement?
Oui, ça a été très compliqué au début, notamment pour nos salariés, puisqu'il a fallu d'abord bloquer toute l'activité et envisager de fermer les centres. Rapidement, ça nous a paru comme une solution insupportable. On ne pouvait pas laisser les gens en détresse avec un animal décédé chez eux dans le confinement. Donc il a fallu s'adapter. Je dois reconnaître que l'ensemble de nos salariés se sont remarquablement mobilisés pour maintenir le service. Donc nos centres sont ouverts, bien sûr avec les mesures de distanciation, avec du personnel effectivement en nombre un peu plus restreint, mais on continue de recevoir les gens sur nos centres. Alors la grosse difficulté, c'est que sur le deuil, c'est une ritualisation du deuil que nous préparons, que nous exerçons comme activité. Et effectivement, les gens en détresse, eh ben, malheureusement, ils ne peuvent plus forcément rentrer dans les salles, se recueillir devant leurs animaux une dernière fois. Le dernier adieu n'est pas toujours simple. Et je suis très content de voir que l'ensemble de mes salariés ont trouvé des solutions. Et on a commencé à démarrer des films, au début avec des iPhones, puis maintenant on s'améliore. Et maintenant, même les gens ne peuvent plus revoir l'animal physiquement pour des mesures de protection, notamment du personnel, et puis liées au confinement. Et ben, on filme. Les mises, voilà, la préparation du corps, on peut filmer aussi. Donc les gens ont un service qui est un peu différent, mais là aussi on s'adapte avec la technologie.
Oui. C'est pareil que pour les enterrements de personnes. Hein. Le nombre est limité, donc c'est la même chose. On ne peut pas non plus assister complètement aux funérailles de nos animaux.
C'était exactement ça, la difficulté que nous avions pour Estima, les petits animaux de compagnie. On ne peut pas faire rentrer les gens dans des salons funéraires, des petites salles où souvent ils venaient tout en famille. C'est important cette rétribution, ce dernier au revoir pour les familles, pour les enfants, la perte d'un animal. Et dans le confinement où on est encore plus rapproché dans les petites surfaces, on ne pouvait pas laisser les gens sans vivre ce deuil correctement et on ne pouvait pas non plus laisser les corps. Et les vétérinaires continuent leur activité, comme l'a dit Jacques Guérin. Donc, on continue de collecter les corps s'il fallait chez les vétérinaires et mon personnel continue d'aller chercher les corps des animaux décédés dans les centres, chez les vétérinaires, de façon à ce qu'on puisse au moins faire l'incinération, la crémation, l'inhumation dans de bonnes conditions. Et même sur les centres, ceux qui souhaitent venir une dernière fois, on a des procédures, ce n'est pas tout à fait le même service, mais on s'adapte et on peut éventuellement leur proposer un petit film avec les supports technologiques.
Merci en tout cas pour ce que vous faites. Je voudrais qu'on termine, Elisabeth, si vous le voulez bien, avec quelques messages de nos auditeurs qui ont eu la gentillesse de nous envoyer des messages et des photos.
Surtout, on a reçu des photos, hein, notamment sur Twitter. Hein, on a reçu des super belles photos. Par exemple, on a Yasmine Sadji qui nous dit « Merci d'évoquer les animaux de compagnie ». Une photo de Virgule, la chienne de ma maman, qui partage son confinement. Heureusement que Virgule est là. C'est un vrai soutien en cette période difficile, une présence précieuse. Ou Marc Belaïch qui nous dit « Kalinou vous écoute hein, ». Et on voit son petit chat tranquillement en train de étaler sur un petit coussin là au bord dans un balcon. Voilà, on a des messages comme ça d'auditeurs qui nous montrent que oui, les animaux les accompagnent pendant toute cette durée du confinement. Oui. Et ça leur fait énormément de bien. On a Alexandre aussi, Alexandre Thibault, on est tous derrière le poste pour écouter le monde aboyer, nous dit-il.
Oui, et je crois que Lola et Sylvie nous écoutent également, on les embrasse également. Merci à vous. Elisabeth, on se retrouve nous demain à partir de 13h. On va se retrouver avec nos coachs demain parce que vous allez voir qu'ils ont énormément d'initiatives. Mais ouais. Pour l'instant,
ils bougent beaucoup, nos coachs.
Oh oui, pour l'instant, on est ensemble jusqu'à 14h. Europe 1. Et on va accueillir votre expert, notre expert Roland Pérez pour répondre à vos questions. A tout de suite.
Europe 1. La France bouge. Raphaël Duchemin.
13h55, c'est l'heure de retrouver, comme chaque jour, Roland Pérez, l'avocat d'Europe 1. Bonjour Roland. Roland, est-ce que vous m'entendez? Ah, je n'entends pas Roland. Roland, allô Roland. Alors on a une question pour
Roland. Vous m'entendez
Roland.
Là?
Oui, ah ben bah oui, voilà, oui, oui. Ça y est, vous êtes là. On ne vous entendait pas du tout.
Oui, je suis là. Vous allez bien, Raphaël?
Bon, oui, je vais bien. On a une question d'Anne-Marie pour vous. Anne-Marie est dans l'heure. Elle nous dit, avec la crise, je souhaite annuler une location qui était prévue au mois de juillet et on me refuse cette annulation. Est-ce que c'est normal?
Alors en fait, pour rappel, le début du déconfinement est prévu normalement pour le 11 mai. Il va être très progressif et la fin de l'état d'urgence, en tout cas de ce qu'on sait, est fixée pour l'instant pour le 24 mai. Donc si la réservation a eu lieu à un moment où le confinement n'était pas prévisible et pour une période qui est peut-être hors confinement, donc peut-être après le 24 mai, on peut soit attendre l'évolution des dispositions réglementaires qui peuvent bouger, soit se mettre d'accord avec le propriétaire pour cette location de maison et invoquer peut-être le cas de force majeure, si la réservation doit s'exercer après le confinement, a priori la force majeure ne peut pas être invoquée et donc ça va être les règles d'annulation habituelles du contrat qui vont s'appliquer, à savoir on perd les arts ou le propriétaire vous demande même le solde des sommes si c'est un acompte qui a été payé, si rien n'a été précisé on considérera que c'est des arts, donc c'est le droit habituel qui s'appliquera puisque hors période de confinement, a priori, le cas de force majeure ne pourra pas s'appliquer.
Bon, voilà Anne-Marie, hein, on vous a répondu. Malheureusement, j'ai l'impression que les choses sont assez mal engagées pour cette location prévue au mois de juillet. Aurélie est à Paris, Roland, elle est journaliste pigiste et elle nous dit que depuis le coronavirus et le début de la crise, on ne lui commande plus de papier. Elle voudrait savoir à quelle aide elle a le droit.
Alors oui, les syndicats représentatifs de la profession se sont mobilisés. Ils avaient déjà tiré début avril la sonnette d'alarme sur la situation des pigistes. Il s'avère que beaucoup d'employeurs refusaient d'inclure dans les demandes de chômage partiel les pigistes. Et alors que ces journalistes ont déjà un statut précaire, ils ont vu leurs revenus évidemment baisser à cause d'annulations ou de baisses de commandes. Donc là, vendredi 17 avril, le ministre du Travail a publié un décret sur les modalités d'application du chômage partiel. Et pour bénéficier justement pour les pigistes de ce chômage partiel, les journalistes doivent avoir effectué au moins 3 piges sur les 12 derniers mois, dont 2 dans les 4 derniers mois chez ce même employeur, ou s'ils travaillent pour une publication par exemple trimestrielle, avoir participé à la dernière édition. Dans ce cas-là, ils vont pouvoir être inclus dans le chômage partiel, dans le programme de chômage partiel de leur précédent employeur. Pour cela, si vraiment l'employeur semble résister, il faut contacter les délégués syndicaux ou le responsable du personnel qui a compétence, lui, pour faire pression, pour mettre en chômage partiel ces pigistes-là. Enfin, s'ils ne rentrent vraiment pas dans cette situation, j'ai vu qu'Audience, qui est vous savez, la caisse sociale, notamment pour les congés payés et autres des salariés intermittents et pigistes, propose une aide un peu exceptionnelle, une aide sociale exceptionnelle pour les journalistes pigistes. Il y a un formulaire à remplir, il faut aller sur le site d'Audience. Et puis, si ceux qui nous écoutent sont auteurs, ils peuvent également s'adresser à la SCAM, qui propose également une aide financière de la société. De cette société qui collecte les droits d'auteur et également, même chose pour les gens de lettres, la société des gens de lettres.
Merci beaucoup pour toutes ces précisions et pour votre réponse apportée à Aurélie de Paris qui nous avait écrit sur le hashtag Radio Ouverte. Vous pouvez aussi nous laisser vos questions au 39-21. On se retrouve demain, Roland, évidemment, juste avant 14h. Vous restez avec nous dans un instant.